Oui, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore venir et ouvrir les Saintes Écritures, la parole de la vérité, Seigneur. Cette parole qui nous conduit à Christ. Seigneur, merci de tout cœur. Et nous te remettons ce moment, ceux qui sont là depuis très longtemps, Seigneur, que nous ne devions pas déshabituer, mais que chaque parole des Écritures, Seigneur, nous transforme. Et pour ceux qui sont peut-être nouveaux, Seigneur, que la parole retentisse dans leur cœur. Fais ton œuvre et nous t'en remercions maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour important pour nous parce que, oui, je vais le dire, nous terminons la série que nous avons commencée il y a bien des semaines, la 7e partie aujourd'hui, la dernière partie, sur une série intitulée « Pourquoi faire confiance à la Bible ?». Et juste pour démarrer notre étude, j'aimerais regarder un verset dans 1 Thessaloniciens 2, et le verset 13. Paul dit ceci, c'est un verset, mais je crois qu'il montre clairement l'objectif de notre étude. Il dit dans 1 Thessaloniciens 2, 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Voyez-vous, la Bible dit d'elle-même qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Et donc, ceux qui l'enseignent comme étant véritablement la parole de Dieu, mais intéressant, ceux qui la reçoivent comme étant véritablement la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, je révise très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là, mais vraiment point par point, rapidement, les dernières parties de cette série. Premièrement, nous avons commencé en nous posant la question sur la révélation de Dieu à l'homme. Est-ce que Dieu s'est vraiment révélé à l'homme? Et là, nous avons répondu, bien sûr, oui. Ensuite, nous avons parlé de l'inspiration des Écritures. Dieu s'est révélé en utilisant, entre autres, la parole de Dieu. Et là, nous avons regardé 2 Timothée 3,16, que nous avons regardé en détail. « Toute Écriture est inspirée de Dieu » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la troisième partie, nous avons regardé le témoignage de Jésus par rapport aux Écritures. Qu'est-ce que Jésus lui-même en a pensé? Comment est-ce qu'il les a utilisées? Et ensuite, partie 4, 5, 6 et aujourd'hui 7, c'est ce que j'ai appelé les preuves externes de l'inspiration de la Bible. Comme on l'a vu déjà, la Bible se présente comme étant la parole inspiré de Dieu, une révélation spéciale de Dieu. Et donc, c'est logique que si la Bible vraiment est inspirée de Dieu, qu'elle doit être imbibée de marques surnaturelles. Et en fait, j'ai toujours annoncé qu'il y en avait 15, mais j'en rajoute un cette semaine. Il y a 16 preuves externes. 16 preuves externes. Alors, on va juste les réviser rapidement. Premièrement, la conception de Jésus-Christ. Je ne vais pas vous donner le détail, allez écouter les messages sur Internet si vous voulez. Deuxièmement, sa conception de l'homme. Troisièmement, sa conception du salut. Quatrièmement, son unité surprenante. Cinquièmement, son indestructibilité. Sixièmement, son exactitude historique. Son exactitude scientifique, numéro 7. Numéro 8, son exactitude médicale. Numéro 9, son exactitude archéologique. Et numéro 10, son exactitude prophétique. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Et aujourd'hui, je continue et je termine, point 11 à 16. Alors, on attaque tout de suite le point 11. La parole de Dieu se montre étant inspirée de barre, numéro 11, sa fiabilité de transcription. Sa fiabilité de transcription. Voyez-vous, la Bible est un document historique. Et lorsqu'on examine un document historique, il y a certains tests qu'il faut appliquer pour déterminer si ce document est fiable ou pas. Ce test pose la question sur les manuscrits. Plus le manuscrit ou les manuscrits anciens sont fiables, plus il est facile de reconstruire le document original pour voir si la copie que nous avons contient des erreurs ou pas. Alors, il y a 4 tests, d'accord, qu'on peut appliquer. Premièrement, ce qu'on appelle le test de la transcription. le test de la transcription. Et ce premier test pose la question, la copie écrite à la main, parce qu'il faut, maintenant penser, on recule vraiment des centaines, voire des milliers d'années en arrière, et on pense aux copies qui ont été faites à la main. Alors la question est celle-ci, cette copie ou ces copies qui ont été transmises et recopiées l'une après l'autre, sont-elles exactes dans leur copie? Wilmington dit ceci, dans toute l'histoire du monde, aucun livre n'a été si souvent copié et avec autant de précaution que la parole de Dieu. Il dit, voyez-vous, la littérature de l'Antiquité était écrite sur des matériaux qui périssaient. La plupart étaient écrits sur des papyrus, des plantes qui poussaient dans le delta du Nil. Mais assez rapidement, ces papyrus moisissaient et se décomposaient. Alors une fois que l'original était écrit, il fallait faire des copies, et ces copies, on les faisait à la main. Alors bien sûr, il y a des copies première génération, des copies deuxième génération, des copies troisième génération, et ainsi de suite. Alors, les Juifs ont très vite réalisé qu'avec ces copies, eh bien, il pouvait y avoir le danger d'erreur, de recopie. Alors comment faisait-il pour garantir la fiabilité absolue de ces copies faites à la main? C'est une question intéressante, je trouve. Alors je vous cite ce que le Talmud dit par rapport aux copies de l'Ancien Testament. Écoutez, c'est intéressant. Voici les règles de recopie. Le parchemin devait provenir d'un animal pur, être apprêté par un juif seulement. Il devait être tendu et fixé par des cordes faites à partir de boyaux d'animaux purs. Chaque colonne devait comporter entre 48 et 60 lignes. L'encre devait absolument être noire et préparée selon une recette particulière. Aucun mot, aucune lettre ne devait être écrit de mémoire. Le copiste devait avoir devant lui un exemplaire authentique dont il devait lire et prononcer chaque mot à voix haute avant de la copier. Il devait essuyer minutieusement sa plume chaque fois qu'il copiait la parole de Dieu et devait se laver entièrement. Donc son corps devait laver son corps entièrement avant d'écrire le nom sacré Yahvé. Une faute sur une page condamnait la page. Si le manuscrit comportait plus de 3 erreurs, on détruisait le manuscrit entier. On comptait tous les mots et toutes les lettres du manuscrit à copier et on vérifiait si le nombre de mots et de lettres du texte copié lui correspondait. S'il manquait une lettre ou si une lettre avait été ajoutée ou si deux lettres étaient attachées, le manuscrit était impropre et détruit. Au jeune scribe, le vieux rabbin donnait le conseil suivant. Je cite, « Prends garde à la manière dont tu accomplis ton travail, car il s'agit d'une œuvre céleste. Veille à ne pas devenir un destructeur du monde en ajoutant une lettre au manuscrit ou en lui retranchant une lettre. » Le scribe était également informé que si un roi entrait dans la pièce où il travaillait et lui adressait la parole, il ne devait pas lui répondre avant d'avoir recopié la page entamée de peur de faire une faute. Donc tu étais en train d'écrire, un roi rentrait, tu ne le regardais même pas. En fait, certains textes étaient annotés. On comptait le nombre de fois où les lettres hébraïques apparaissaient dans le texte. On a ainsi compté que la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, revient 42 377 fois dans l'Ancien Testament. Donc une fois qu'il était terminé, tu recomptais toutes les lettres Aleph pour voir si c'était juste. Si c'était pas juste, il y avait un problème. Et de même pour toutes les autres lettres. D'après Westcott et Hort, notre incertitude quant au texte aujourd'hui ne concerne que moins d'un pour mille des mots. On estime qu'une lettre sur 1580 de l'Ancien Testament est sujette à caution, mais cela n'affecte en rien la moindre doctrine. On estime aujourd'hui que toutes les erreurs de transcription mises ensemble font environ, grande maximum, une demi-page. Donc ça, c'est le test de transcription. Deux, le test bibliographique. Alors, ce test répond à la question « Combien de manuscrits anciens écrits à la main y a-t-il » D'accord, combien de manuscrits? Alors là, on sait que les manuscrits qu'on a sont fiables. Oui, mais il y en a combien de ces manuscrits? Eh bien, la règle est celle-ci. Plus il y a de manuscrits, plus il est facile de reconstruire le document original pour voir si la copie que nous avons contient des erreurs ou pas. Hein, on compare les copies les plus tardives avec les copies les plus tôt, et ensuite on compare pour voir si ça colle ou pas. Alors, saviez-vous qu'il y a plus d'évidence pour la fiabilité historique du Nouveau Testament que pour les 10 autres œuvres de littérature les plus importantes mises ensemble? C'est exact. En 1973, les érudits ont pu documenter 14 000 manuscrits du Nouveau Testament. Aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes archéologiques faites, on peut documenter, tenez-vous bien, 24 633 manuscrits du Nouveau Testament. Le deuxième livre de toute l'histoire en ce qui concerne ce même test bibliographique, c'est Iliade par Homère avec 644 manuscrits. Donc un petit calcul, simple, nous apprend qu'entre le numéro 1 de toute l'histoire, qui est le Nouveau Testament, et le numéro 2 de toute l'histoire, qui est l'Iliade par Homère, il y a une différence, tenez-vous bien, de 24 000 manuscrits. Et toutes ces statistiques sont documentées dans un ouvrage par Josh McDowell qui s'appelle « Evidence that demands a verdict », « Évidence qui demande un verdict ». Je ne sais pas comment il est traduit en français. Et alors, qu'en est-il des autres grands livres de l'histoire? Pline le Jeune, il y a 7 manuscrits. César, 10. Platon, 7. Aristote, 49. Euripide, 9. Sophocle, 193. Et le Nouveau Testament, 24 633. Ainsi, mes amis, nous pouvons lire le récit biblique avec une confiance absolue. Parce que si vous ne pouvez pas avoir confiance dans le récit biblique, alors, pour être honnête, vous devez rejeter toute la littérature qui existe dans le monde aujourd'hui et devenir un agnostique historique. Car si vous ne pouvez pas faire confiance au Nouveau Testament, qui est le plus fiable de tous, eh bien les autres, c'est complètement fichu. Troisième test, c'est le test du rapprochement des copies. Donc là, on a déjà vu la fiabilité des copies. Deuxièmement, le nombre des copies que nous avons. Troisièmement, le rapprochement des copies. Ça, c'est aussi intéressant. J'espère que vous me suivez, c'est un peu technique, hein, mais c'est la fin des grands messages techniques, là, d'accord? Ok. Ce test pose la question, la voici. Quelle est la période de temps entre le document original et la copie la plus vieille que nous avons? Pas combien de copies, mais quel est le temps entre les copies? La proximité de ces copies. Alors la règle de base est simple. Plus la copie est proche de l'original, plus la copie est exacte et fiable. On est d'accord? Alors mes amis, tenez-vous bien, parce que le résultat est époustouflant. Lorsqu'on compare la Bible et les autres livres de l'Antiquité, Pline le Jeune, depuis le temps où il a écrit son livre et le manuscrit le plus vieux que nous avons aujourd'hui, il y a un laps de temps de 750 ans. Tout le reste a été perdu. Pour César, 1000 ans. Pour Platon, 1200 ans. Pour Aristote, il a écrit en 343 avant Jésus-Christ et le document le plus vieux que nous avons date à 1100 après Jésus-Christ. Ça fait une différence de 1400 ans. Hérodote, 1300 ans. Sophocle, 1400 ans. Euripide, 1500 ans. Mesdames et messieurs, pour le Nouveau Testament, nous pouvons remonter à 100 ans de l'original. 100. Oui, c'est pas une erreur. 100 ans. Il n'y a aucune comparaison entre le Nouveau Testament et tous les autres livres de l'histoire. Je vous donne quelques exemples. Voici le manuscrit John Ryland, le P52. C'est la seule portion que nous avons, c'est la portion le plus ancien au monde du Nouveau Testament qui date à 125 après Jésus-Christ. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jean en fait est mort en 90 après Jésus-Christ. Donc il n'y a que quelques années entre la portion la plus vieille que nous avons et l'original. Maintenant, regardez le prochain, parce que là, ça donne des frissons, carrément. Enfin, j'espère. Moi, ça m'a donné des frissons. Regardez ça. Le papyrus Bodner II, P66. Et vous lisez quoi en dessous? Genève. Genève. Il est à Genève, ce manuscrit. Qui connaît le musée Bodmer? Alors, on devrait être beaucoup. On va faire une sortie au musée Bodmer. Vous devez voir ce papyrus. Il est incroyable. Regardez voir. Il date de 200 après Jésus-Christ. Alors, moi, j'avais mon petit doute. Alors, j'ai appelé le musée pour leur demander. J'ai parlé avec la dame. Elle était toute contente que quelqu'un s'intéressait au P66 à Genève. Alors, cette dame, elle parlait avec moi. Ah, c'était super. Mais écoutez, c'est franchement génial. On peut aller voir un manuscrit qui date de 200 après Jésus-Christ. C'est incroyable. Il y a un autre manuscrit que vous devez connaître. C'est l'histoire des manuscrits de la mer morte. Alors, en 1947, il y avait un bédouin qui était en Israël, puis en train de faire paître ses brebis. Il lance une pierre. Il y avait des grottes là-haut vers, dans les grottes de Qumran. On peut les visiter aujourd'hui. Il lance une pierre et cling! Il entend quelque chose qui casse. Alors, il monte, il grimpe et il voit là des grandes jarres. Peut-être on peut aller à la... Voilà. Donc, ça, c'est les grottes de Qumran que vous voyez. Il y en a des centaines. Là, c'est à l'intérieur d'une grotte de Qumran. Et donc, vous pouvez imaginer la pierre qui rentre et clac, voilà. Et elle tape un de ces récipients et il se casse. Alors, il va voir. Et là, il découvre des manuscrits. Alors, lui, il connaissait pas trop. Alors, il fait venir des érudits. Et alors, il découvre des documents qui avaient été déposés dans ces grottes, écoutez bien, 20 siècles auparavant. 20 siècles, 2000 ans auparavant. Des documents qui ont été écrits entre l'an 220 avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Alors, pourquoi, voilà, ça c'est certains des documents qu'ils ont trouvés. Pourquoi cette découverte fut-elle si importante? Parce que jusqu'à là, le manuscrit le plus ancien que nous avions de l'Ancien Testament datait du 9e ou du 10e siècle de notre ère. Et c'était un manuscrit écrit par ce qu'on appelle les Juifs Masorètes. La découverte de ces manuscrits ont catapulté de mille ans, le manuscrit de l'Ancien Testament que nous avions, maintenant il est plus tôt. Et alors ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils se sont dit, ah bah écoutez, c'est fantastique, maintenant on a un manuscrit qui date de 1000 ans plus tôt qu'on avait, donc on va les comparer et voir s'il y a des erreurs. Bah écoutez, ils étaient quasi identiques. Qui veut dire, mes amis, ça c'est moi ce qui m'a réjoui le plus. Cela nous montre et nous prouve que l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui est bel et bien celui que Jésus avait. Parce qu'ils ont découvert des manuscrits de l'Ancien Testament qui dataient avant Jésus. Et donc, on confirme que ce que nous avons est ce que Jésus lui-même utilisait. Et encore, quand on a fait le tour, on était en juin l'année passée là-bas, le guide nous a dit, vous trouvez pas que c'est absolument incroyable que Dieu a permis que tous ces documents soient préservés dans l'endroit, le seul endroit au monde où vraiment c'était possible. Parce que là, l'endroit où ils ont trouvé, c'est l'endroit le plus bas d'altitude en dessous de la terre, en dessous de la mer morte, en dessous du niveau de la mer. Et les conditions sont absolument idéales et parfaites pour préserver ces documents. Et aujourd'hui, vous pouvez aller en Israël et voir ces documents. C'est absolument génial. Si vous comprenez pourquoi c'est tellement génial. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous êtes des érudits, vous comprenez tout, d'accord? Mais c'est vrai que c'est super génial de voir. Et ça nous montre que ce que nous avons est vraiment, vraiment fiable. Dernière chose sur ce point, puis ensuite on va avancer parce qu'il faut que je termine, d'accord? Le dernier test dans ce point, c'est le test des sermons du passé ou des citations du passé. Vraiment intéressant. Est-ce que vous saviez que vous pouvez brûler toutes les Bibles du monde? D'accord? Imaginons qu'aujourd'hui, on brûle tout. Loin. Tout. Toutes les Bibles disparaissent de la planète. Eh bien, savez-vous qu'on pourrait reconstruire le Nouveau Testament, moins 11 versets, même s'il n'y avait plus de Bible sur la terre? Comment est-ce qu'on ferait? Eh bien, c'est l'Encyclopédie Britannica qui nous lit. Car tous les premiers chrétiens, lorsqu'ils donnaient des sermons et lorsqu'ils écrivaient des lettres aux églises et qu'ils citaient la Bible, ils écrivaient mot pour mot les citations de la Bible. Ils écrivaient parfois des citations de 5 chapitres de long. Aujourd'hui, nous avons 36 000 citations du Nouveau Testament par les pères de l'Église. Et donc, avec toutes les nouvelles découvertes, on peut documenter aujourd'hui en tout 86 489 citations du Nouveau Testament par les pères de l'Église. Et en prenant toutes ces citations, on peut reconstruire tout le Nouveau Testament, moins 11 versets. Et ça, mes amis, c'est le seul livre de l'histoire où on peut faire ça. Ça, mes amis, c'est la parole de Dieu. Le livre que nous avons est fiable. Vraiment, vraiment fiable. Point 12. Point 12. Douzième preuve que la Bible est inspirée de Dieu, c'est sa diffusion massive. Alors vous savez que la Bible, encore aujourd'hui, est un des livres les plus haïs du monde. Les gens détestent la Bible. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un miroir. Elle nous dit qu'elle est un miroir, elle reflète le péché de l'homme. Et l'homme n'aime pas être... Il n'aime pas apprendre qu'il est pécheur, d'accord? Donc, ils n'aiment pas la Bible. Si tu n'aimes pas le message, il faut essayer de détruire le messager ou la méthode. La Bible, c'est quelque part le messager ou celui qui la porte. On essaie de le virer. Donc, les gens détestent la Bible. Jean 3 nous dit ça, d'accord? Ceci dit, la Bible n'arrête pas de se diffuser autour du monde. Les dernières statistiques que j'ai trouvées cette semaine sont franchement incroyables. En 1456, à Mainz, en Allemagne, Johann Gutenberg a imprimé la toute première Bible en utilisant une presse inventée avec le même principe qu'une presse à raisin pour fabriquer le vin. Donc c'est lui la première fois où il a imprimé une page. Depuis, de nombreuses personnes ou agences ont traduit, produit et distribué la Bible dans le monde entier. Combien de Bibles ont été produites et distribuées depuis Gutenberg au XIXe siècle? Personne ne le sait. Jusqu'au XIXe siècle, personne ne le sait. On peut essayer d'estimer. Les statistiques précises ne sont connues que depuis les années 1800 sur la diffusion de la Bible. Alors la Société biblique du Royaume-Uni a calculé le nombre de Bibles imprimées dans le monde entre 1816 et 1975. Et voici le nombre de Bibles qui avaient été dans le monde, 2 458 millions. En 1992, donc 15 ans plus tard, le chiffre avait grimpé à 6 milliards. 6 milliards de Bibles diffusées dans le monde. Le nombre de Bibles vendues par année dans le monde a explosé à plus de 100 millions par année, qui dépasse de loin tous les autres livres dans l'histoire du monde, sans aucun doute. La Bible est le best-seller de tous les temps, de loin, et encore aujourd'hui. Vous savez, moi, ça me rassure un petit peu. Tu sais, des fois, on est dans notre petite église, dans cette petite ville à Genève, on se dit, waouh, le monde est grand, puis nous, est-ce qu'on a vraiment un impact autour de nous? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Et je regarde ma Bible et je regarde ces statistiques, je dis, mais attends, John, toi, tu as une Bible, là, 1 sur 6 milliards. Il y a des gens dans le monde entier qui sont exactement comme nous, qui consultent leur Bible, la même. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est qu'un tout petit groupe, mais tous ces petits groupes, tous ensemble, font un grand groupe. On est un grand groupe et on a tous la même Bible. Cela veut dire qu'en 2007, nous avions 7,5 milliards de Bibles distribuées dans le monde, parce qu'ils ont fait les projections par rapport à ça, enfin, c'est ce qu'ils savent maintenant, avec... aujourd'hui, on devrait... Ils estiment que nous approchons les 8 milliards, c'est ce que j'essaie de dire. Bref, il y a beaucoup de Bibles, d'accord? Et... cela ne prend même pas en compte les versions digitales. Par exemple, si vous avez un BlackBerry, si vous avez un iPod ou un iPhone ou maintenant un iPad et vous avez 18 ou 40 ou 60 Bibles dessus, ça prend même pas en compte ça. Là, j'ai une Bible assez intéressante. Je vais vous montrer. Un microfilm. La Bible entière est là-dessus. Ouais. Il y a, sur ce microfilm, 773 746 mots. Comme microscope, on peut voir. D'accord? Donc, je la laisse là. Vous pouvez venir la voir. Mais vous ne me la prenez pas. Hein? D'accord? Parce que, dans le train de Zurich, c'est ça ce que je lis. Non, c'est pas vrai. D'accord? D'accord. Alors, vous savez que la Bible, aujourd'hui, a été publiée en 450 langues. Le Nouveau Testament, à lui seul, a été publié en 1400 langues. Et l'Évangile de Marc, à lui seul, a été publié en 2370 langues. Alors, c'est intéressant. Ça représente que la moitié des langues dans le monde. Il y a plus de 5000 langues dans le monde. Mais, bien que ce chiffre ne représente que la moitié des langues et dialectes utilisés dans le monde aujourd'hui, il représente toutefois les langues principales de la communion des 90 de la communication de 90% de la population du monde. Qui veut dire que 90% des gens dans le monde ont une Bible, ils peuvent avoir une Bible en leur langue. Ou une langue qu'ils comprennent. Alors, on résume ce point. J'ai vérifié la population du monde le mardi 1er juin 2010 à 7h48 du matin et 36 secondes. Parce qu'il y a un site qui vous donne la population du monde à n'importe quel instant. D'accord ? Donc, à cet instant-là, au pôle Nord, hein, c'est là où il... Je ne sais pas pourquoi le truc est là. Il y avait 6 867 246 356 personnes qui vivaient sur la planète Terre. Qui veut dire, mes amis, qu'il y a assez de Bibles en circulation aujourd'hui pour que chacun dans le monde en ait une. Le problème, c'est les diffuser à ces gens, c'est apporter les Bibles à ces gens. Les Bibles sont là. Il y a assez de Bibles dans le monde pour que tout le monde en ait une. C'est incroyable, non? J'aimerais vous montrer encore une Bible. Ça, c'est un trésor. Vous savez, je donne pas mal de tours de la Réforme à Genève, parce que j'aime beaucoup la Réforme. Et il y a quelques années en arrière, il y a un gars qui m'a dit, John, si tu es à Genève et si tu donnes le tour de la Réforme, il faut savoir qu'il y a une Bible qui a été écrite à Genève, qui s'appelle The Geneva Bible. La Bible Genève, elle est en anglais, par un des réformateurs qui s'appelle John Knox. Lui, qui était ici à Genève, il avait fui l'Écosse, était ici. Avec l'aide de Jean Calvin et d'autres, il a écrit une Bible. C'est la première Bible avec commentaire. Si vous avez une Bible que vous utilisez aujourd'hui avec un commentaire dans les marges, eh bien la première au monde était celle-ci. Et ce gars collectionne les Bibles de Genève. Il m'a dit, John, il t'en faut une. Tiens. Alors il est venu à Los Angeles, il me l'a apportée. Cette Bible, elle est en parfait état. Elle date de 1608. Et ce qui est incroyable, cette Bible, c'est que cette Bible, mes amis, à l'époque, vous pouvez la regarder, elle est en parfait état. Vous verrez, il y a des taches de cire parce qu'il lisait à la bougie. Cette Bible était la Bible populaire à l'époque. Et pour cette Bible, des centaines, voire des milliers de personnes sont mortes, martyrisées, parce qu'elle était interdite. Alors, quand vous prenez cette Bible, quand vous la regardez ce matin, rappelez-vous que les gens sont morts pour pouvoir tenir une Bible comme ça. Aujourd'hui, on peut en avoir des centaines sur Internet. On est vraiment des privilégiés. Alors, je la laisse là, mais vous ne me la prenez pas. Hein. 13. Vous êtes encore avec moi, là, ça va? On va vite aujourd'hui, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, 13. Oui, 13. Son influence universelle. Ce n'est pas sa diffusion, mais non, c'est son influence dans le monde. Écoutez, vous savez déjà, il y a beaucoup d'influence. Par exemple, chaque livre à l'Occident qui est écrit, au début, il y a la date. C'est marrant, c'est la date de Jésus-Christ. Hein? La date de Jésus-Christ. Est-ce que ça n'a pas été une influence incroyable dans le monde? Le fait qu'encore aujourd'hui, dans notre monde païen, on utilise la date de Jésus-Christ comme la date pour tous nos livres séculiers. Ça, c'est une sacrée influence. Christ a transformé le monde. L'art a été influencé par Jésus-Christ. Je crois que j'ai des photos qui vont avec ça. Bref, l'art a été influencé par Jésus-Christ et par la Bible, c'est incroyable. Les premiers peintres étaient des moines, les premières peintures étaient religieuses. Allez au Louvre, allez dans les musées d'art aujourd'hui, vous verrez des peintures sur la Bible, à droite et à gauche, Léonard de Vinci, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange. Moi, j'aime beaucoup Caravaggio. Caravaggio, qui avec les jeux de lumière, dessine des portraits bibliques absolument incroyables. On pense aux jours fériés encore aujourd'hui. On célèbre nos jours fériés, tout le monde est d'accord d'avoir des jours fériés. Bon, peut-être pas pour aller louer le Seigneur, mais la plupart des jours fériés sont liés d'une manière ou d'une autre au christianisme dans l'Occident. La musique a été influencée par la parole de Dieu. Bach, Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Handel, Haydn, tous ces gens, ils avaient vraiment toute une culture biblique. Est-ce que vous savez que même le cannibalisme a été arrêté à cause du christianisme? La Bible a également inspiré la plupart des lois des pays occidentaux. Les 10 commandements sont à la base de beaucoup de lois dans l'Occident. Un jour, je vous donnerai un tour du mur de la Réforme. Le mur de la Réforme montre l'influence de l'Évangile. Bien sûr, Calvin était un prédicateur de la parole de Dieu. Montre l'influence de l'Évangile dans les pays aujourd'hui qui aujourd'hui ont encore les effets de l'Évangile, de la parole de Dieu. Oui, allez au musée Patek Philippe. Regardez ces montres. Pourquoi? Parce que c'est les Huguenots français qui sont venus à Genève et qui, eux, ont créé l'industrie de la montre. Ces belles montres que vous portez, si elles sont suisses, viennent directement des Huguenots, de l'inspiration, de l'éthique du travail dessiné dans la parole de Dieu. Mais écoutez, l'influence de la Bible est partout. Et partout. C'est absolument incroyable. 14. 14e preuve que la Bible est la parole de Dieu. Alors là, vous devez me suivre, trois points importants. La logique, elle est vraiment géniale. La mort des disciples prouve que la parole de Dieu était vraiment juste et vraie. Regardez. Numéro 1, les disciples ont affirmé être des témoins oculaires de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de ses miracles. Par exemple, dans Jean 1, ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée par le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, Jean, comme les autres, ont tous affirmé qu'ils ont vu, qu'ils ont touché. Ils ont tous affirmé que la résurrection, en particulier de Jésus, était vraie, juste, et qu'ils l'avaient vue. Premier point. Deuxième point. Ils ont fait appel à leurs ennemis en tant que témoins oculaires également. Ils ont dit à leurs ennemis, par exemple dans Actes 2, 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et par les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'est intéressant. Ils disent, vous, les ennemis de Jésus, vous avez vu ces miracles. Vous étiez là et vous le savez. D'accord. Ils ont affirmé avoir vu les miracles et surtout la résurrection. Deux, ils affirment que leurs ennemis avaient aussi vu ces mêmes miracles. Trois, incroyablement, 11 des 12 disciples sont morts martyrs. Paul remplace Judas, Matthias, bon ça c'est toute une histoire, mais bref, prenons les 11, d'accord? 11 des 12 disciples sont morts martyrs. C'est incroyable. Ils sont morts martyrs. Ça veut dire qu'on les a tués pour avoir proclamé Jésus-Christ. Maintenant, lorsque vous regardez au travers du livre des Actes, la chose qui est la plus proclamée de toutes, c'est la résurrection. Sans cesse, ils affirment que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est resté 40 jours sur terre, qu'il a apparu à eux et bien d'autres. Ils ont affirmé avoir mangé avec lui, vécu avec lui, marché avec lui. Ils disent avoir touché Jésus. Thomas a même peut-être mis son doigt carrément dans les plaies de Jésus. Jean 20. Et ils ont dit qu'ensuite Jésus est monté physiquement au ciel. Alors écoutez, très bien. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Ou bien ils ont vraiment vu Jésus ressuscité, ou bien pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, pour avoir affirmé la véracité de la résurrection, ils sont tous morts. Alors vous dites, ouais, mais John, beaucoup de gens sont morts pour un mensonge. Oui. Pour un mensonge qu'ils pensaient être vrai. Il y a des gens qui étaient convaincus que quelque chose était vrai, mais en fait, c'était faux. Mais combien de gens connaissez-vous qui mouraient pour un mensonge qu'ils savaient être un mensonge? Voyez-vous, si la résurrection était fausse, s'il n'a pas eu lieu, les disciples étaient obligés de le savoir. Il est humainement impossible que ces hommes ont été dupés de croire en la résurrection s'il avait été fausse. Comment tu peux affirmer que tu as vu, que tu as touché, si c'était faux? C'est pas possible. Surtout en affirmant les détails qu'ils ont vus sur une période de 40 jours. Non, si la résurrection était fausse, ils devaient savoir qu'elle était fausse. Aucun n'a jamais abjuré de sa foi sous pression. Ils étaient convaincus que c'était absolument vrai. Et c'était impossible d'avoir été dupé que c'était faux. C'est pas possible, il y a trop de détails. Et personne ne meurt pour un mensonge qu'ils savent être un mensonge. C'est pas possible. Et ça, mes amis, c'est un des grands arguments de la véracité de la résurrection et donc de la véracité de la parole de Dieu. Et encore deux points très simples. Très simples. 15. 15e preuve de l'inspiration de la Bible, c'est son honnêteté absolue. Vous savez, si vous et moi, on décidait aujourd'hui, voilà, on va passer l'après-midi, on va essayer d'écrire à nous-mêmes un livre de Dieu, un livre inspiré. Je parie que ce livre parlerait super bien des gens, des prophètes, des gens que nous voudrions faire passer pour les prophètes de Dieu. On peindrait des portraits positifs. Or, la Bible est hyper honnête. Par exemple, Noé était un homme de Dieu, Genèse 6-9. Pourtant, la Bible n'évite pas de révéler son enivrement et sa nudité honteuse dans Genèse 9-20-24. Moïse était l'homme le plus humble de la terre, Nombre 12-3. Pourtant, la Bible ne contourne pas son meurtre ni sa colère qui lui a coûté la terre promise. David était considéré le plus grand roi d'Israël. Il a composé la plupart des psaumes, c'est quand même intéressant, mais la Bible ne cache pas non plus qu'il a commis l'adultère et le meurtre pour cacher son adultère. Élie était le prophète champion à contester contre les prophètes de Baal, à qui Dieu a donné le don des miracles, mais la Bible ne cache pas sa crainte devant cette femme Jézabel, sa déprime et même son désir de mourir. Il voulait se suicider. Et Pierre, le leader des apôtres de Jésus-Christ, il renie Jésus 3 fois. Mais attendez voir, il n'y a que le livre de Dieu qui donnerait cet équilibre par rapport à ces portraits, des hommes de Dieu avec leurs faiblesses. Et cette honnêteté est un autre des signes de la véracité de la parole de Dieu. Et dernière chose, c'est son pouvoir de transformer les vies. Ça, mes amis, c'est probablement une épreuve la plus visible pour nous. Beaucoup de versets en parlent, mais je vais vous en donner un. 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mes amis, une personne qui, par le biais de la parole de Dieu, rencontre Jésus-Christ, invite Christ, par la foi, de devenir son Seigneur et son Sauveur. Cette personne prend conscience de son péché, dit « Jésus, prends tout mon péché, donne-moi ton pardon. » Une personne qui place sa vie entre les mains du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, mes amis, va devenir une nouvelle création. Et sa vie va complètement changer. Je vous donne un exemple. Et j'arrête. Il y a des années en arrière, j'étais à Los Angeles, je faisais mes études de théologie. Et je teintais les vitres des limousines. Vous savez, les limousines, alors on teintait les vitres en noir. Ça, c'était mon travail pendant 4 ans. Je mettais ce plastique sur les vitres. Et alors, bien sûr, les clients déposaient leur voiture et ils les reprenaient le soir. Et un client avait déposé sa voiture et le soir, il est venu. Je me rappelle encore, c'était une Scirocco. Jamais j'oublierai. C'était un Argentin. Et on a commencé à discuter. Et cet Argentin vivait avec sa concubine, mariée, mais bien sûr... divorcé, vivait avec sa concubine. C'est ce que c'était son travail. Producteur de films porno. Et Los Angeles est un des endroits, une des villes au monde où il y a le plus de producteurs de films porno. On a commencé à discuter. Puis on est arrivé sur la Bible. Et mes amis, c'était glorieux de voir ce gars en premier se battre contre la parole de Dieu et voir son cœur complètement se fondre devant la vérité de la parole de Dieu. Il a été tellement interpellé par ce que je lui racontais qu'il est retourné dans sa voiture, il était tâté, il y avait sa copine dans la voiture. Et moi, je les ai regardés et je voyais la voiture bouger parce qu'il essayait de lui expliquer ce que je lui venais d'entendre. Je ne crois pas qu'il était encore converti à l'époque, enfin à ce moment-là, mais je voyais ils sont rentrés dans une sorte de conflit. Et depuis, je voyais la voiture bouger, ça chauffait dans la voiture. Il est revenu, il m'a dit, « John, je veux maintenant recevoir Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Sauveur et Seigneur. » On ne lui croyait pas. Et... Alors là, dans le petit atelier où on travaillait, on a prié. Il s'appelle Alex, cet homme. Je le connais, il est super. Dieu a transformé cet homme. Mes amis, tenez-vous bien. Il était producteur de films porno. En 2 environ, il est devenu le traducteur de tous les films de Billy Graham pour la langue espagnole. Dieu a pris cet homme. Il a pris son talent de producteur de films, mais il a complètement changé la direction de cet homme. Mes amis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer un homme comme ça. J'espère qu'il viendra nous visiter une fois à Genève. Il est génial, vraiment génial ce gars, zélé pour le Seigneur. Et si vous connaissez Christ, il a fait la même chose pour vous. Il vous a déjà transformé. Si vous ne le connaissez pas encore, il va vous transformer. Il veut vous transformer. Et mes amis, quand il vous transforme, vous direz amen à tout ça. Parce que ce jour-là, vous saurez que la parole de Dieu, elle est vraiment la parole inspirée de Dieu. Et voilà ce que nous affirmons. Nous n'avons pas honte de l'affirmer. Et c'est ce que je prie de tout cœur, que nous soyons un peuple. Et que cette église, mes amis, ça marche, je parle mon cœur, que nous devenions de plus en plus amoureux de la parole de Dieu. Ça soit le but de tout ce que nous faisons. Que nous soyons fidèles à l'annoncer, à la proclamer, à la lire, à l'étudier et à la vivre. Est-ce que je peux entendre un amen?
Amen.
Amen. On va prier. Oh Seigneur, vraiment, nous sommes tellement remplis ce matin parce que ta parole, elle est vraiment vérité. Tu as dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Jean 17, 17. Seigneur, oui, elle est vérité. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et Seigneur, jusqu'à ton retour, nous voulons te demander aujourd'hui de nous aider, de réanimer la flamme en nous, Seigneur, le zèle, de ne pas avoir peur ici dans cette ville de Genève de proclamer l'évangile haut et fort. Seigneur, il y a tellement de gens dans l'histoire qui sont morts, martyrisés pour la parole de Dieu. Seigneur, quel privilège nous avons d'être en liberté aujourd'hui. Que nous soyons d'autant plus zélés. Fais ton œuvre. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.